Le PIS regroupe des personnalités politiques qui se considèrent comme les perdants de 1989 et des changements démocratiques. Et ils veulent donc revenir sur l'ensemble de la période de la démocratie qui s'est instaurée en 89 pour la reconfigurer un petit peu à leur façon et revenir sur l'héritage en fait de la rupture avec le communisme en présentant la Pologne de 1989 et de l'après-89 comme étant largement enracinée encore dans le communisme. Donc ça, c'est quelque chose qui est constant dans le discours de la droite radicale polonaise depuis 89. Simplement, pour la première fois justement depuis cette date, la droite radicale est assez puissante pour mener à bien une série d'entreprises qui sont censées matérialiser en fait cette rupture avec 89. Je pense que c'est ce qui explique la conception largement autoritaire du pouvoir qui domine dans ce parti et qui se manifeste par exemple dans un certain refus du pluralisme institutionnel ou de toutes les logiques, tous les mécanismes institutionnels qui conduisent à diffuser le pouvoir dans des instances de régulation, dans des mécanismes de contre-pouvoir comme le tribunal constitutionnel ou comme l'instance de régulation des médias.
On a le sentiment, Frédéric Zalewski, que la Pologne est vraiment coupée en deux. Est-ce que le fossé se creuse justement entre les héritiers de 89 et ceux qui prennent aujourd'hui une revanche sur l'histoire?
Ce clivage a toujours existé dans la société polonaise depuis 1989. La brutalité, en quelque sorte, de l'alternance qui vient d'avoir lieu montre que c'est la société, en réalité, qui est clivée autour de cette question de 89, mais pas uniquement. Ce qui est certain, c'est que depuis que le gouvernement PiS a été constitué et passé à l'action, ce clivage se durcit beaucoup et ça se traduit notamment par des mobilisations de la société civile qui sont relativement importantes, puisque s'est constitué dès le mois de novembre un comité de défense de la démocratie qui est à l'origine de manifestations qui se sont tenues à plusieurs reprises à Varsovie, mais aussi dans des villes de province. Il y a un très grand écho sur les réseaux sociaux et ce qui est assez inédit, c'est que le principal parti d'opposition, en tout cas un nombre de députés qui est la plateforme civique, pourrait appeler à manifester aussi prochainement. Et pour un parti qui a ce positionnement libéral et modéré, c'est quand même assez inédit et révélateur du durcissement de ce clivage, en effet.
Le sentiment anti-Bruxelles est très fort. Est-ce qu'il s'est creusé ces différentes années? Est-ce qu'on peut noter une évolution dans la défiance envers les institutions européennes?
Je pense qu'ils marchent un petit peu sur des œufs avec l'Union européenne. Ils ne peuvent pas se permettre... je pense que des deux côtés, aussi bien du côté des autorités européennes que des autorités polonaises, la question c'est de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin en fait. C'est-à-dire que aller trop frontalement dans la critique de Varsovie pour les institutions européennes, ce serait assez risqué parce qu'on a bien vu avec Orban notamment que ça pouvait devenir une ressource politique après en interne pour ses dirigeants, une ressource de contre-mobilisation. Mais dans le cas des Polonais, c'est assez difficile d'aller trop loin aussi dans la critique des institutions européennes parce qu'ils sont quand même relativement dépendants de Bruxelles à travers les fonds structurels, tout simplement. Leur priorité, ce serait plus une sorte de voie médiane qui consiste à essayer de construire des coalitions ponctuelles avec des gouvernements conservateurs, eurosceptiques, alors tantôt avec la Hongrie, tantôt avec un peu ce qui se profile ces jours-ci, tantôt avec la Grande-Bretagne. Donc là, ils veulent profiter un petit peu du contexte politique britannique pour essayer de négocier un soutien britannique en échange d'un certain nombre de concessions qu'il pourrait faire à Londres.
Néanmoins, la Commission européenne a décidé de lancer cette procédure d'enquête, on va dire, pour voir si l'état de droit ne serait pas menacé. C'est une première, ça va avoir lieu le 13 janvier. Est-ce que Bruxelles, là, ne prend pas des risques de raidir le pouvoir à Varsovie?
C'est un risque. En même temps, comme je le disais à l'instant, toute la question est de savoir quelle est la procédure la plus adaptée pour malgré tout manifester un certain nombre de manquements à l'état de droit et à la démocratie qui sont tout à fait manifestes et explicites en ce moment en Pologne.
Certains observateurs s'inquiètent devant l'autoritarisme du gouvernement polonais d'une dérive fasciste même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qualificatif?
Parler de fascisme, ça nous mène, on va dire, dans une querelle sémantique qui est peut-être un peu compliquée. Il faudrait d'abord se mettre d'accord pour savoir ce que c'est le fascisme, ce qui n'est pas forcément toujours très évident, mais c'est peut-être un peu radical. Je dirais que c'est en fait un projet politique et idéologique néoconservateur qui ressemblerait toute chose égale par ailleurs à ce que serait l'arrivée au pouvoir de l'aile dure du Parti républicain aux États-Unis, par exemple, et tout ça menait en bourbattant, hein, comme je le rappelais, 9 jours au total pour la loi sur le tribunal constitutionnel. constitutionnel, 4 jours à peu près pour la loi sur l'audiovisuel, et ce, avec une visée tactique en quelque sorte. Hein. Il s'agit à la fois de désorienter l'adversaire, en respectant pas les procédures parlementaires habituelles, en les prenant au dépourvu en quelque sorte, mais aussi agir tant que la majorité PiS est encore cohérente, parce que Kaczynski et les dirigeants du PiS ont sans doute en tête leur précédent passage au pouvoir dans les années 2005-2007, où ils ont été victimes en réalité du rythme du travail parlementaire et des jeux parlementaires, puisque leur coalition à l'époque n'a pas tenu, notamment avec le parti de la Ligue des familles polonaises, qui a été à l'origine des élections anticipées à l'époque. Donc je pense qu'ils veulent aussi aller vite pour éviter de s'enliser dans des jeux parlementaires qui pourraient leur être défavorables.
Est-ce que je peux vous poser une question sur le rôle de l'Église polonaise? On sait que c'est un acteur important de la vie dans le pays, plus que dans d'autres pays européens. Comment réagit-elle un peu depuis que le nouveau gouvernement est en place?
Depuis les années 90, l'Église, en tant qu'institution, ne réagit jamais de manière directe et explicite en prenant des positions officielles sur ce qui se passe, et c'est encore ce qu'on peut observer en ce moment. Cela étant, l'Église polonaise, elle n'est pas du tout monolithique, elle est elle-même très clivée. Il y a une frange minoritaire, mais qui existe et qui est importante et qui est plutôt libérale. Et puis, il y a une frange qui est beaucoup plus traditionnaliste, beaucoup plus conservatrice et qui n'est pas inactive dans son soutien au PiS, que ce soit à travers les condamnations par certains prêtres, des candidats opposés aux candidats du PiS aux élections, ou surtout à travers la radio intégriste Radio Maria, qui est un relais d'opinion très très important pour les néoconservateurs polonais, quel que soit leur parti, que ce soit le PiS ou d'autres partis antérieurement. De ce point de vue, le rôle de l'Église est important, et d'une certaine manière, ça se fait avec une sorte de permissivité de l'épiscopat qui ne peut pas ignorer ce qui se passe dans certains cas et qui ne réagit pas.
Est-ce que l'arrivée du PiS au pouvoir en Pologne va nourrir, selon vous, le sentiment anti-élite, l'anti-Bruxelles?
Plutôt un symptôme, je dirais, que aussi bien dans le cas de la Hongrie que de la Pologne, le positionnement de défiance et un peu instrumental par rapport à l'Europe de ces gouvernements est un symptôme aussi du manque de projet politique de l'Europe en ce moment. C'est-à-dire que ce type de discours et ce type de positionnement idéologique existait avant 2004 et avant l'élargissement de 2004. Simplement, l'Europe était encore un horizon qui pouvait être mobilisateur politiquement, qui pouvait être présenté aux opinions publiques comme une perspective d'amélioration. Maintenant, on est après l'élargissement et c'est beaucoup plus difficile de projeter les populations dans une sorte d'avenir meilleur procuré par l'Union européenne. Et du coup, ce type de discours qui existait auparavant maintenant peut avoir une plus grande résonance ou une plus grande résistance politique. Mais je ne pense pas que ce soit nouveau en tant que tel. Je pense simplement que ça prend une résonance politique plus importante qu'auparavant.